À l'oral d'un concours, j'avais eu ces deux questions. La première, pouvez-vous me parler du dernier livre que vous avez lu ? La seconde, pouvez-vous me parler de la place de la femme dans la société ? Devant moi, j'avais dans mon jury deux femmes. Alors prudemment, j'ai pris la première question. Mais ce matin, je vais aborder la deuxième question avec vous. Et je n'ai pas deux femmes, mais j'en ai plusieurs centaines devant moi. Donc je demande votre prière et votre bienveillance. Car la seconde lecture nous invite à approfondir la vocation de la femme. Dans un premier temps, je voudrais parler du Seigneur qui a voulu créer l'homme et la femme. Dans un second temps, de la place de la femme dans la société, dans la famille. Dans un troisième temps, dans l'Église. Au chapitre 1er de la Genèse, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et Benoît XVI commentait la Sainte Écriture en disant que notre propre nature est une parole de Dieu. Si nous sommes hommes ou femmes, ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu l'a voulu. C'est un don de Dieu. Et donc nous sommes invités à nous aimer tels que nous sommes, à avoir une juste estime de soi, à remercier le Seigneur pour ce que nous sommes, soit hommes, soit femmes, et de transmettre aux enfants ce juste amour de soi. Puisque actuellement dans notre société, nous avons une idéologie qui voudrait faire croire que être homme ou femme, c'est simplement une question de choix ou une question culturelle. Une femme pourrait devenir un homme et vice-versa. C'est le dernier piège du démon qui déteste la création de Dieu et qui veut absolument la brouiller, la troubler. Car une personne qui voudrait devenir homme ou femme, qui voudrait changer, resterait bien la même génétiquement et bien sûr pour Dieu qui l'a voulu selon son identité profonde. Si bien qu'un évêque disait la semaine dernière que si par exemple Catherine voulait s'appeler Marc, eh bien cela contredirait l'identité donnée par Dieu. Ce serait parler faussement et comme chrétiens nous sommes appelés à garder le prénom de Catherine même si elle veut se faire passer pour Marc. Car chacun d'entre nous, nous sommes aimés tels que nous sommes, hommes ou femmes. Et la femme, comme l'homme, a une place particulière dans la société. L'erreur du féminisme, c'est de faire croire à la femme qu'elle doit imiter l'homme en toutes choses. Cela, en fait, n'honore pas la femme. Dernièrement, j'écoutais une ministre qui disait que la dignité de la femme était importante, et ça c'est vrai, bien sûr, mais en aucun cas elle n'a parlé de la maternité, une des dimensions féminines, et la seule fois où elle l'a évoquée, c'est de façon négative, en disant que c'est une simple charge mentale. Le vrai féminisme, au contraire, met à l'honneur ce qui est spécifique dans la femme, dans sa psychologie, dans sa mission dans la famille ou dans la société, notamment sa mission de mère. Ainsi, l'homme et la femme, s'ils sont différents dans leur nature, ils sont égaux en dignité, et complémentaires. La différence du féminisme qui veut organiser une lutte entre l'homme et la femme, le christianisme, au contraire, invite un soutien mutuel entre l'homme et la femme. Et ce soutien mutuel se passe d'une façon particulière dans la famille. Nous venons d'entendre dans la seconde lecture que l'homme est le chef de la famille, mais nous savons bien que la femme sait influencer son mari. Et pour aborder cette question délicate, je voudrais commencer par une petite histoire sympathique. C'est un rassemblement de pèlerins sur la place Saint-Pierre au Vatican. Et il y a un nouveau capitaine des gardes suisses et il désire organiser l'entrée des pèlerins sur la place. Alors il décide, c'est un peu spécial, il décide de faire deux grandes colonnes, une d'hommes, une de femmes. Mais les pèlerins sont tellement nombreux qu'il décide de faire quatre colonnes. Alors il va vers les hommes et il dit que les hommes qui ont été influencés par leur épouse durant leur vie aillent sur ma droite, et que ceux qui n'ont jamais été influencés aillent sur ma gauche. Et là, étonnement, toute la foule des hommes va à droite, sauf un. Alors le capitaine des gardes suisses s'approche de lui et dit « Monsieur, vous vous rendez compte? Vous êtes le seul homme qui n'a jamais été influencé par votre femme ?» Et lui répond « Oh, moi, je sais pas, c'est ma femme qui m'a dit de me mettre là. » Donc si l'homme est le chef de la famille, l'épouse sait comment aussi influencer son mari. D'ailleurs, cette soumission à laquelle nous sommes invités est pour tous, puisque saint Paul commence cela. Frères, par rester pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Une invitation pour les chrétiens d'éviter l'orgueil, la rivalité dans leurs relations. Quand nous disons que l'homme est le chef de la famille, ce n'est pas au sens d'une domination. Il est intéressant de mettre en rapport le chapitre 3e de la Genèse, où comme conséquence du péché originel, l'homme domine sur la femme, avec la lettre aux Éphésiens, où les relations entre l'homme et la femme sont transformées, renouvelées dans le Christ, et la femme est appelée à être soumise à son mari. Car cette soumission n'est pas une domination du mari. La domination, conséquence du péché originel, c'est l'homme qui écrase la femme. L'homme qui la violente, on peut penser aussi à la polygamie qui fait son apparition à cause du péché, puisque là, l'homme vaut entre guillemets plusieurs femmes. Mais la soumission dont nous parle saint Paul, inspiré de Dieu, puisque c'est la parole même de Dieu, c'est la soumission à son mari qu'il aime, comme l'Église est aimée par Jésus, comme elle est protégée par Jésus. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Et bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, mettez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Se livrer pour quelqu'un, c'est aussi fort que être soumis, c'est dans les deux cas un don de soi, ce don de soi qui existe dans le mariage. Deux exemples concrets pour vivre cela dans une famille. Par exemple, le mari est appelé à prendre du temps pour écouter son épouse. Parfois, il est nécessaire de la soutenir par une écoute simple. Et pourtant, il y a les soucis de la vie, du travail, et parfois l'esprit du mari est pris par plein d'autres choses. Il n'hésite pas à confier ses soucis au Seigneur pour qu'il les porte avec lui et ainsi qu'il ait son cœur disponible pour écouter son épouse. C'est un moyen concret de se livrer à elle. Pour la femme, reconnaître la place de son mari dans la famille, c'est d'éviter de faire toujours des reproches, car cela fragilise son estime de lui-même. Et comme me disait un jour une épouse, de ne pas hésiter à faire deux compliments quand on veut faire une remarque. Des moyens concrets, tout simples, dans la vie de famille, pour grandir dans cette complémentarité des missions au service des enfants, au service de l'Église, de la société. La femme aussi a une place particulière dans l'Église. Alors on peut avoir cette idée qui vient à l'esprit, mais tiens, dans l'Église, ce sont que des hommes qui sont prêtres. Alors pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes liés au choix de Jésus. Jésus a utilisé de l'eau pour le baptême, nous faisons de même. Il a utilisé du pain pour la messe et non pas, par exemple, du riz, nous faisons de même. Et de même, il a ordonné prêtre des hommes pour le représenter, car lui-même est homme, et nous faisons de même. Ce n'est pas une question d'orgueil, de carrière, c'est une question d'imiter le Christ pour servir l'Église. Madame Una Kroll, qui était la première femme qui se disait prêtre au pays de Galles en Angleterre, dans l'Église anglicane, était très connue, militante. Elle était la première à avoir pensé à être prêtre dans cette Église. Et un jour, elle a fait une retraite. Et elle a découvert durant cette retraite que cette volonté d'être prêtre ne venait pas d'un service, mais d'une volonté d'orgueil. Elle a décidé, à la sortie de cette retraite, de laisser cela de côté. Et puis, petit à petit, elle a découvert l'Église catholique. Elle est devenue elle-même catholique, au grand étonnement de ses contemporains. Car être prêtre, c'est d'imiter l'Église qui s'est d'imiter le Christ qui s'est donné pour l'Église. Saint Jean-Paul II faisait remarquer que dans l'Église, nous avons deux profils principaux. Le profil, l'exemple de la Vierge Marie, qui par son oui est un modèle, et l'exemple de Saint-Pierre, premier pape. Et saint Jean-Paul II faisait remarquer que l'exemple de Marie était premier, car pour que le pape Pierre puisse vivre sa mission, il fallait que, comme Marie, il dise un oui. C'est le cas dans cet évangile où Jésus pose la question aux 12 apôtres : « Voulez-vous partir vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Ainsi, Marie est première dans notre démarche chrétienne avant les responsabilités dans l'Église. Il est nécessaire de dire oui à Dieu et Marie montre le chemin. Aussi dans l'Église, bien sûr, nous sommes soucieux, il est important pour nous d'avoir de nombreuses vocations de prêtres, mais n'oublions pas les vocations de consacrés, de religieuses. Par leur oui, elles montrent à toute l'Église ce modèle marial qui est nécessaire pour avoir une responsabilité au service des autres. Nous sommes faits hommes et femmes par Dieu et c'est un cadeau. L'homme et la femme sont égaux en dignité, ont une place complémentaire dans la société et la famille. Et la place de la femme dans l'Église aussi est complémentaire à celle de l'homme. En conclusion, nous participons à la messe et c'est à la messe où Jésus se livre à nous de façon particulière, comme il s'est livré sur la croix en sacrifice et se donne à nous sur l'autel. Dans quelques instants, je dirais, heureux les invités au repas du Seigneur, mais nous aurons un nouveau missel dans quelques mois qui va préciser cette traduction et cela donne en vrai heureux les invités aux noces de l'agneau. La messe est comme des noces, une rencontre profonde avec le Seigneur. C'est là où notre vocation, notre estime de nous-mêmes se nourrit, c'est là où l'amour des époux prend sa source, c'est là où toute vocation dans l'Église prend sa source. Que le Seigneur nous prépare à cette rencontre. Amen.